bonjour à tous. Vous êtes sur le mug Nowtech. C'est le vendredi. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses. On va parler notamment des États-Unis, pas l'Europe, qui accuse Apple de monopole illégal. Comme quoi, hein, l'Europe, ça inspire. On parlera bien sûr de plein d'autres sujets tech. C'est le vendredi. C'est le zbeul, comme d'habitude. Plein de gravier. On partira dans tous les sens parce que c'est ce qu'on aime le vendredi. Nous sommes d'ailleurs le vendredi 22 mars 2024 et on démarre tout de suite. Et bonjour à tous, comment vous allez bien? Le soleil revient. Vous savez à quoi on reconnaît vraiment le printemps? Non, c'est pas les cerisiers qui sont en fleurs, c'est pas les premiers bourgeons. Le signe immanquable du printemps, je sais que techniquement c'est pas le printemps, mais le signe immanquable du printemps, c'est le Parisien en terrasse. Ça pèle encore dehors. Mais, premier rayon de soleil, les terrasses à Paris sont remplies de Parisiens qui mangent des salades au lardon avec des chèvres chaudes dessus, de la graine de chia. Voilà, ça, c'est le signe immanquable du printemps. Ça ne rate pas. Il se le pèle, son chèvre chaud, il est froid, mais le Parisien est en terrasse dès les premiers rayons de soleil. Il y a un consensus scientifique. Ça ne trompe pas. Le café, il arrive froid sur la terrasse, mais c'est pas grave. Le Parisien est en terrasse. T'en vois même, ça c'est un phénomène très parisien, des Parisiens qui s'arrêtent dans la rue. Tu sais, il y a un rayon de soleil entre deux immeubles, et t'as des Parisiens qui s'arrêtent dans la rue, et ils sont là, ils bronzent, ils se croient sur la Côte d'Azur, tu sais. Parce que le bronzage, c'est important à Paris, pour rendre jaloux les gens au bureau. La fameuse chèvre miel chia, exactement. Typiquement parisien. On dit que les Parisiens n'ont pas de cuisine. Bah si. TGIF, thanks Gravier, it's Friday. Très bon ça, très bon Jamie. Très bon, très bon. Le serveur tire la gueule. Il y a de moins en moins les serveurs tireurs de gueule à Paris. C'était mieux avant. Maintenant, on commence à avoir des serveurs qui parlent anglais et qui savent sourire. Moi, je dis tout se perd. Il y a, alors, je le sais parce que je suis allé déjà dans des restos comme ça. Il y a, alors, je sais pas si ça existe encore. C'était il y a quand même un certain temps, mais il y avait un resto qui s'appelait La Boucherie et ils se targuaient d'avoir des serveurs à l'ancienne qui faisaient la gueule et qui te parlaient mal et qui parlaient. Bien le parisien. Vous voulez un Coca-Cola? Ou sinon, les seniors se font renverser par des quads. Il n'y a pas trop de quads à Paris. Il y a pas mal de scooters avec deux pneus devant. Les nouveaux serveurs police sont des robots humanoïdes. Oui, peut-être. C'est encore un truc de l'IA générative. On est perdu. On est perdu, on est perdu. Un grand merci, Nico Forsberg, 21 pour ton 20e mois d'abonnement. Merci, Olivier SG, également pour ton 37e mois d'abonnement. Merci à vous, les contributeurs, qui essayent de faire démarrer le train de live, mais le train de live n'a toujours pas commencé. Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vous parle du printemps et le train de live ne démarre pas. Encore Apple, c'est sûr. Non, Apple, ils sont en retard sur l'IA. On en parlera. Ça ne peut pas être Apple. Apple, c'est fini. C'est finito, Apple. On va beaucoup en parler, mais c'est finito. C'est complètement finito. Bon, et vous, comment ça va bien ? Ah, tu les aimes bien, Apple. Ah, non, mais ça va devenir la nouvelle mode. Quand Apple va commencer à décliner, il y aura des mecs qui détestaient Apple qui vont défendre Apple. Rien que pour la polémique. J'ai J'ai une pub pour du diesel. Ah non, c'est le parfum. Parfum à l'essence. Ah oui, le choix de la... Ouais. C'est vrai que diesel... C'est bizarre comme nom de marque. Mais c'est une marque des années 80, 90. Non, diesel, c'est vieux quand même. Ouais, à cette époque, voilà, les codes un peu virilisants, là. Ouais, je me mets un peu de diesel, quoi. Je connais pas, en fait, diesel. Je connais pas très bien. Apple existera-t-elle encore dans 50 ans ? Bah, c'est quelque chose que je dis souvent. Il faut jamais croire que le too big to fail, ça n'existe pas. L'histoire des entreprises dans le monde, et même, par extension, des empires dans le monde... Disons qu'une entreprise peut disparaître et une entreprise peut se transformer aussi, devenir autre chose. Mais oui, les trucs qu'on cite souvent, c'est des Kodak, la compagnie aérienne que je cite souvent, Panam, étaient des empires qu'on croyait indéboulonnables et se sont cassés la gueule. Donc, que Apple se casse la gueule, soit encore là dans 50 ans, on verra. Enfin, vous verrez. Moi, je sais pas. Le train de live n'a pas démarré, c'est magnifique. Merci Antimateur EDJ pour ton 26e mois d'abonnement. Merci Jess pour ton 45e mois d'abonnement. Le train de live vient de démarrer, c'est magnifique. Merci Panouerion pour ton 27e mois d'abonnement. Merci Pax Magellanis pour tes 100 bits. Merci Mathieu 404 pour ton 39e mois d'abonnement. Merci les contributeurs. Dans le genre nom bizarre, Apple, c'est pas mal aussi. Oui, bon, on connaît tous un peu l'histoire de pourquoi Apple s'appelle Apple. Steve Jobs aimait bien les pommes. Il y a l'histoire de la pomme de Newton. C'était leur premier logo. Je pense que là où il y a eu un certain... Là où Apple a bien choisi son nom, c'est qu'ils ont choisi un nom qui ne faisait pas trop technophile. Dès sa naissance, Apple voulait cultiver une différence dans le monde informatique, quoi. Coup de bol, il aimait plus les pommes que l'andouillette. Andouillette computer. Vous savez pas ce qu'il y a dedans, mais c'est bon. Ah, le slogan est excellent. Andouillette computer, vous savez pas ce qu'il y a dedans. Probablement des petits morceaux de trou du cul, mais c'est bon. Microsoft est toujours là. Microsoft, c'est quoi la naissance de Microsoft ? C'est milieu des années 70, si je me trompe pas. Où est-ce que j'ai foutu mon smartphone ? Ah, il est là. On va demander à Coco. J'appelle Copilot Coco. Quelle est la date de naissance de la société Microsoft ? C'est un peu long, allez, en GPT-4. 1975. Ah, j'ai été bon. À l'origine, elle s'appelait Microsoft et a vu le jour à Albuquerque. Ah, je savais pas. C'était Micro-Soft. Depuis sa création, Microsoft est devenu l'un des principaux acteurs mondiaux dans le domaine de l'informatique et du logiciel. Ok. Merci. Je te coupe la chic. Fricatel computer. Ouais. Chèvre miel computer, j'ai envie de dire. Pour le moment, Apple reste pertinent. À la rigueur, Sony serait les seuls à pouvoir concurrencer sur les modèles pro. J'ai du mal avec Samsung. Tu sais, alors, pronostic. Je pense vraiment très profondément que l'IA générative, l'IA en général, va rebattre les cartes de l'informatique. On verra. Mais je pense que là, on est dans un changement profond de l'informatique. Donc des sociétés peuvent naître et devenir énormes. On va voir l'avenir d'OpenAI, mais ceux qui me disaient dans les commentaires de ma vidéo, quand je disais que Apple faisait une erreur avec le Vision Pro, qu'ils auraient mieux fait peut-être de mettre plus de ressources dans l'IA générative, me disaient « Ouais, non, mais Apple, ils ont qu'à racheter OpenAI. » Mais vous croyez qu'OpenAI est à vendre ? Ces mecs-là pensent, et Sam Altman en tête, qu'ils vont devenir beaucoup plus gros que Apple, Google, Microsoft, etc. Ces mecs-là ont une vision de leur entreprise absolument énorme. Donc, même si Apple aligne des milliards, OpenAI n'est pas à vendre. Je vous garantis, en tout cas, tant que Sam Altman est à la tête de ce truc, ils ne seront pas à vendre. Et je vais même vous dire, une société comme Mistral, dont on a beaucoup parlé, je ne suis pas sûr qu'ils accepteraient une offre d'Apple. Les ordinateurs Renard, ah, les goupilles, ouais. Voilà, c'est vieux, ça. Pronostic numéro 2, on sera tous vitrifiés et Apple sortira son Silex Pro Max pour concurrencer le bambou à frotter de Google. Pas exclu, pas exclu non plus. Tout est à vendre si on met le prix. Je pense que quand tu montes une société comme OpenAI et que tu as une personnalité comme Sam Altman, tu te dis que personne ne peut payer le fric que tu peux te faire dans l'avenir. Donc, ouais, ceux qui pensent que Apple, ils ont qu'à, alors, ils ont qu'à racheter OpenAI et rattraperont tout leur retard. Peut-être que je me trompe. Mais alors, ça m'étonnerait fort qu'OpenAI accepte d'être acheté. Bon, si on faisait un petit récap de ce qui s'est passé dans la tech cette semaine, c'est le début de la fin avec Apple, bientôt lourdement pour antitrust et pioche l'IA de Google. Ben justement, on va parler un petit peu de ça, des choses qui se passent cette semaine. Tout va très vite hein, dans le monde de la tech. Attendez, je remonte un petit peu dans ce que Marion avait pris comme article. On a parlé un petit peu, effectivement, de TikTok qui était sur la sellette hein, aux États-Unis, vous le savez. Ce qui fait pas mal débat hein, aux États-Unis. Il n'y a pas non plus un énorme consensus sur le fait qu'il faut bannir TikTok aux États-Unis. C'est presque un combat de génération aussi. Il y a des voix qui se lèvent aux États-Unis pour dire... Est-ce que TikTok n'a pas un peu un traitement différent parce que c'est une entreprise chinoise ? En gros, certains disent, est-ce qu'on a été aussi dur avec Facebook ? Qui a eu son lot de problèmes graves et ça n'a jamais été évoqué de bannir Facebook. Donc, c'est un débat intéressant, ça va être à suivre. Il faut savoir que certains pays dans le monde ont déjà banni TikTok, l'Inde, donc en parlant des grands pays qui ont banni TikTok. Est-ce que l'Europe bannirait TikTok ? Je pense qu'en fait, il y a tout un arsenal de mesures qui peuvent être prises avant de bannir une plateforme. Donc, ça va être intéressant à suivre. Marion a également parlé, effectivement, d'Apple qui a lancé son premier modèle de langage multimodal qui est très intéressant, effectivement, le MM1. Mais en parallèle, on a aussi ces rumeurs que Apple serait en train de faire un accord historique avec Google pour pouvoir utiliser Gemini, leur modèle de langage. Mon analyse de ces rumeurs, ça peut paraître contradictoire. Pourquoi Apple montre un petit peu, lève le voile sur leur laboratoire. Regardez, on est en train de bosser sur le multimodal. Et en même temps, est-ce qu'ils seraient en train de signer avec Google pour utiliser le modèle de langage Gemini ? En fait, ça serait assez malin de la part d'Apple. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que chez Apple, à mon avis, il y a eu un trauma avec Apple Plan. Quand vous vous souvenez, c'était il y a quoi ? Il y a 10 ans, quand ils ont sorti Apple Plan, ils étaient avant Apple Plan, Google Maps était installé sur les iPhones. Pour les... Souvenez-vous. Apple s'est dit, il faut qu'on ait absolument notre propre Maps. Donc, on va sortir plan. Et ils l'ont sorti un petit peu trop tôt. C'était très, très loin de la fiabilité de Google Maps. Et même encore aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que Apple Maps, c'est de la merde. Vous allez tomber dans un ravin si vous suivez les directions et tout. Le fait est, c'est que Apple Plan est devenu vraiment bon. Mais peu de gens le savent, en fait. Donc ça, je pense que ça a échaudé Apple. Donc Apple, qu'est-ce qui se dit aujourd'hui ? Apple, pour moi, c'est relativement clair. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Qui sont en retard sur la première génération d'IA générative. Ici, si on prie trop tard, ils développent leur modèle de langage, Ajax, Ferret, etc. Mais dans l'entraînement de ces modèles de langage, ils ont du retard. Ils savent aussi que si ils prennent trop de retard à sortir quelque chose pour le public, tous les produits Apple vont devenir hyper ringards. L'IA générative, je suis d'accord avec certains d'entre vous, il y a du bullshit dedans. Mais quand même, globalement, regardez, moi je l'ai utilisé là ce matin, Copilot, etc. Quand on commence à prendre l'habitude d'utiliser l'IA générative, ça devient vite indispensable et ça change complètement son rapport à l'informatique. Apple ne peut pas se permettre de prendre 2-3 ans de retard sur Android, sur les PC, qui eux embarquent déjà des interfaces conversationnelles boostées à l'IA générative. Donc, ce que pourrait éventuellement faire Apple, et ce qui est assez malin, c'est de se dire, par exemple, pour iOS 18, bah, on va prendre le modèle de langage de Google pour développer notre propre interface, notre propre IA générative, et ça nous donnera du temps pour développer nos propres modèles de langage. Alors, beaucoup de gens ont dit « Oui, mais s'ils signent avec Google, ça veut dire que c'est la fin de la privacy chez Apple, ça va passer par les serveurs de Google. » Non, d'abord, il y a une différence technique entre acheter ou payer un modèle de langage de Gemini et ensuite développer sa propre interface conversationnelle et ses injections d'IA générative sur les iPhones. Ça ne sera probablement pas Gemini sur les serveurs Google sur les iPhones. Donc, ça pourrait en fait permettre à Apple de combler le gap et de leur donner justement ces 2-3 ans dont ils ont besoin pour développer leur modèle de langage maison, en fait. Est-ce que Google a intérêt à ce deal ? Oui. Google, vous savez, hein, Google paye très cher Apple pour être le moteur de recherche par défaut sur les iPhones. Google... Bon, je sais, ils font les pixels et tout, mais Google, leur vrai business model, c'est d'être le plus partout possible pour pouvoir collecter un maximum de profilage pour pouvoir vendre des modèles publicitaires de consommation. C'est leur cœur de business. Ils s'en foutent complètement dans l'absolu. Que ça va permettre à Apple de vendre plus d'iPhone. Au contraire, ils seront contents, parce que ça fera plus de gens qui utilisent Google. Donc oui, non, Google... Et même si Google, il n'est pas naïf, même si Google sait que Apple va profiter de Gemini et de la recherche Google et l'abandonner quand Apple aura développé son propre modèle de langage, Google, il s'en fout, parce que lui, il sait aussi que dans 2-3 ans, il aura évolué aussi. Donc c'est comme ça que ça se joue. Normalement, si tout va bien, on devrait vous sortir une vidéo sur le sujet, sur la chaîne YouTube, dans les jours qui viennent. C'est Karina qui décide, c'est elle la productrice. Le seul problème que j'ai avec cette vidéo, en fait, ça parle d'intelligence artificielle générative, d'iOS 18 et tout ça, c'est que bah, comme il y a eu ces news cette semaine, elles ne sont pas dans la vidéo. Donc, il faut que je trouve le moyen quand même d'injecter cette rumeur dans la vidéo et le fait que Apple lance son premier... Donc, on ne va pas retourner la vidéo, Mais je pense qu'aujourd'hui, je vais faire une petite interruption dans la vidéo. Le reste de la vidéo reste d'actualité. Mais c'est ça qui est dur avec les vidéos YouTube, c'est que les nouvelles vont tellement vite dans ce domaine-là que produire une vidéo sur YouTube, c'est pas simple, quoi. Donc, vous devriez avoir une vidéo sur le sujet. La vignette est déjà prête, le titre aussi. On doit retoucher un tout petit peu la vidéo. Voilà, voilà. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube, hein, bien sûr. Les pouces et tout. Ça sert plus à rien, mais faites-le quand même. Non, en vrai, ça sert encore, mais moins. De quoi on a parlé d'autre? Marion a parlé aussi, effectivement, du... mais on ne va pas refaire le débat. C'est effectivement le problème autour des AirTags. Alors, c'est Apple qui est dans le viseur, mais le problème avec les trackers en général. En fait, les trackers, ça rend d'énormes services. Et moi, je le sais. J'ai officiellement 18 trackers AirTags sur mes affaires et j'adore ça. Mais ça peut être aussi un outil pour les harceleurs, un outil d'espionnage. Apple a été quand même la première marque, et il faut leur reconnaître ça, à essayer d'intégrer dans les AirTags des outils pour prévenir ce tracking malveillant. Et c'est pas parfait. En fait, c'est un équilibre délicat. J'avais tout résumé dans la vidéo. L'AirTag n'est pas un antivol. C'est qu'il faut trouver à la fois la bonne mesure entre faire un truc efficace pour le tracking des objets et en même temps qu'il ne puisse pas être trop utilisé à des fins malveillantes. C'est un équilibre délicat. On peut reconnaître que Apple fait des efforts dans ce sens-là, ce que n'ont pas fait forcément les autres. Les Tile et tout n'avaient même pas d'outils anti-harcèlement sur leur tracker. Mais bon, comme c'est Apple qui en vend le plus, des AirTags, bah forcément, le recours collectif est contre Apple là-dessus. Les pouces, ça sert à rien sur YouTube. C'est un peu exagéré ce que je dis, mais en gros, vos abonnements, vos pouces sont moins importants pour l'algorithme YouTube qu'ils ne l'ont été à une époque. Voilà. En fait, il y a une seule chose importante pour YouTube aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous allez regarder après. C'est le seul truc qui compte pour l'algo YouTube. Il n'en a rien à foutre que vous soyez abonné à des chaînes, en fait. On en a parlé mardi matin. Oui, Marion, c'est Marion avec qui on travaille et qui fait aussi les lives. Et ouais, mais là justement, je suis en train de faire la récap de la semaine, Gabissiga. Donc voilà, je fais un peu une review de quoi on a parlé. Marion a également parlé d'une roadmap. Alors là, c'est de la rumeur sur. Et ça, c'est peut-être le plus intéressant. Bon, l'iPhone pliant, moi j'y crois moyen. Mais je crois assez. On a beaucoup dit que Apple avait abandonné les lunettes connectées pour se consacrer uniquement au Vision Pro. Moi, là aussi, hein, c'est le matin pronostic. Je pense que la vision d'Apple de vision est une gamme complète. Le Vision Pro n'est qu'une des pierres de cette gamme. Je vais même aller plus loin. Je pense que l'iPhone fera partie de la vision. De vision d'Apple. En fait, le spatial computing, le mot marketing d'Apple pour l'AR, en fait, la réalité augmentée, est une vision globale d'Apple qui va être intégrée petit à petit dans chacun de ses produits. Et une paire de lunettes légères qui fera beaucoup moins que le Vision Pro sur le côté immersion, mais qui perd. En fait, c'est des lunettes légères à la Apple. Un peu des Google Glass à la Apple, il faut les voir comme une Apple Watch du Vision Pro. C'est-à-dire, ça servira à avoir des petites notifs, à avoir des flèches en transparence pour vous diriger quand vous êtes en vélo. Ça ne sera pas un truc pour regarder des films. Parce qu'aujourd'hui, la transparence... Enfin, faire apparaître des images sur des lunettes transparentes, c'est extrêmement compliqué. On n'a pas la techno. Aujourd'hui. On ne pourrait pas faire des Vision Pro aussi légères que des lunettes et transparentes. On ne peut pas. Le scientifique, enfin, les sciences autour de ça ne le permettent pas. Mais on peut quand même afficher des choses par transparence dans des lunettes. Un petit peu ce que les Google Glass faisaient il y a plus de 10 ans, quoi. C'est pas parce que... Alors, j'ai plus la vidéo en tête, mais il y a un Allemand, un YouTuber allemand très très technique, qui a fait une vidéo hyper intéressante, mais alors attention, hein, c'est de l'ingénierie qui explique justement tous ces problèmes de faire apparaître une image en transparence. Pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas faire des Vision Pro sur des lunettes légères, en fait. Il y a rien que le fait d'empêcher la lumière de rentrer par là, vous voyez. Alors, est-ce que je vais perdre du temps à chercher la vidéo, je la retrouverai jamais. Cherchez vous-même. Est-ce qu'on peut dire que le Vision Pro et le Spatial Computing à le vent en poupe, la sortie du casque d'Apple était assez mitigée niveau public? C'est quoi ton avis? Je pense que Apple s'en fout complètement. Enfin, ils savent très bien que le Vision Pro n'est pas un produit mass market. Ils ont sorti le Vision Pro V1 comme ils ont sorti l'Apple Watch V0. Un prototype à grande échelle, c'est la première pierre d'un édifice. Mais Apple ne cherche pas... ils ont, pour moi, avec le Vision Pro, ils ont réussi quelque chose d'essentiel. Ils ont marqué le marché et ils ont fait passer leur concept marketing de spatial computing. Mais maintenant, tout reste à faire pour Apple. Mais je pense que les gens qui disent que le Vision Pro est un succès parce qu'ils en ont vendu 200 000 se trompent autant que les gens qui disent que c'est un flop parce qu'ils n'en ont vendu que 200 000. En fait, c'est pas le nombre de ventes là que cherche Apple avec cette V1. Tu dois parler de la vidéo de Tech Allemagne. Alors, je vais aller voir. Je vais aller voir si c'est ça. J'avoue que j'aurais dû noter sa vidéo, mais alors j'ai pas tout compris, hein, parce que c'est un truc d'ingénieur, mais elle était quand même super intéressante. Il y a beaucoup de choses où je comprends pas tout, mais je trouve ça super intéressant. alors, attends, Tech Alt. Mais justement, tous ceux qui disent là, je vois, oui, mais les écrans transparents, ça existe, etc. Non, alors attends, j'ai. Tech, alors, est-ce que je l'ai là? Non, j'ai pas l'impression que ça soit lui. Alors attendez, je fais une petite recherche dans mon historique, mais le problème, c'est que comme on est beaucoup à utiliser la chaîne Naotech, mon historique est bourré de trucs qui sont pas à moi, entre guillemets. Donc c'est parfois long de scroller dans l'historique. Je vais voir quand même si je la retrouve. J'ai vu la vidéo il y a une ou deux semaines. J'essaie de me souvenir de sa vignette. Mais c'est pas le genre de mec à faire des vignettes putaclic comme nous. Donc j'ai pas retenu sa vignette. Oh là, mais c'est pas moi qui ai regardé ces trucs-là. Les braqueurs du hold-up à 1 milliard. Mais c'est pas moi qui ai regardé ça. Qui a regardé ça dans l'équipe? Oh là là, je vais jamais retrouver. vais jamais retrouver. Je me donne encore 2 minutes. Ah, c'est peut-être ça, oui, c'est TechAltar, t'as raison. Oui, c'est bon, je l'ai. Je l'ai, je vous montre le début. Donc, la chaîne, c'est TechAltar, tout attaché, T-E-C-H-A-L-T-A-R. Et la vidéo, bah, il a changé de titre depuis, s'appelle The Billion Dollar Race for Truly Smart Glass. The Billion Dollar Race for Truly Smart Glasses. Voilà la vidéo. Voilà, c'est lui. Et je vais un peu plus loin dans la vidéo, mais il vous explique assez bien les problèmes optiques et tout ça de faire des lunettes légères. Voilà, ouais, c'est hyper technique. Hein. Il va vous expliquer les problèmes d'affichage, les trucs de rétine, machin et tout ça, quoi. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui tiennent ce discours de « oui, l'Apple Vision marchera quand Apple fera des lunettes aussi légères que ça, que des lunettes normales. » Là, oui, ça prendra. Vous apprendrez que dans cette vidéo, on est très, très loin de ça. On n'y arrivera pas dans 2-3 ans, quoi. Voilà. Donc, il vous explique justement tous les différents procédés qui existent, ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui, là où la recherche avance sur les affichages, etc. C'est une question hyper intéressante que tu poses. Pourquoi Apple le présente comme un produit grand public dans leurs vidéos de promotion si ce n'est pas l'objectif d'en faire un mass market? Là où l'Apple Watch était présenté grand public et s'est vendu grand public, c'est un raté d'Apple. Non, il faut comprendre que Apple est une... Apple fait quelque chose très bien. C'est que Apple sait prendre le temps parce qu'ils savent qu'il faut parfois du temps pour construire un marché mass market. C'est-à-dire que Apple, bien sûr qu'ils veulent vendre des Vision, pas forcément pro, mais ils veulent vendre Apple Vision, ils veulent le vendre au mass market. Mais ils savent très bien qu'ils n'y arriveront pas avec la première génération, parce qu'ils ont besoin de faire des itérations sur des produits qui sont déjà commercialisés, pour voir, et c'est là où je dis, c'est exactement comme l'Apple Watch. On le sait maintenant aujourd'hui, quand Apple a lancé l'Apple Watch V0, c'était aussi pour voir comment on l'utilisait, comment les développeurs allaient l'utiliser. Apple sait très bien qu'ils ne construiront pas un marché seul. Ils ont besoin des développeurs. Ils ont besoin que quelqu'un trouve peut-être une killer app qui fasse qu'on ait tous envie d'acheter un Apple Vision. Et ça, ils ne peuvent pas le faire tant qu'ils n'ont pas des produits ou des prototypes sur le marché. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, bien sûr que le but d'Apple, en nous montrant des gens grand public qui l'utilisent, in fine, ils veulent que le grand public l'utilise. Mais ce qu'ils voulaient surtout faire avec cette première V1, c'est nous faire passer l'idée. Alors, je vais t'expliquer un autre truc sur comment on lance un nouveau produit tech. En fait, un produit tech... comme des AirPods, une Apple Watch, des choses comme ça. Il y a toujours une période au début où le produit semble incongru. Oh, on va pas se mettre des cotons-tiges dans les oreilles pour écouter de la musique. Oh, on va pas porter des Apple Watch. Une montre, c'est fait pour donner l'heure. Il y a toujours une période où le produit paraît, à part pour des technophiles hyper geeks, le produit paraît incongru. Et c'est presque une phase obligatoire pour un produit tech. C'est toute la phase du Vision Pro où on voyait des mecs dans le métro avec un Vision Pro ou en train de manger un kebab avec leur Vision Pro. Et on a tous dit « c'est ridicule ». Mais cette phase, elle est presque obligatoire avant de passer à la deuxième phase où un produit commence à devenir cool. Tu vois ce que je veux dire ? Retenez l'exemple de l'AirPod. L'AirPod, et moi dans mes vieilles vidéos, vous pouvez le voir... au début, je m'en moquais un peu de son côté coton-tige dans les oreilles, etc. Et puis petit à petit, à fur et à mesure que de plus en plus de gens l'utilisaient, ça s'est normalisé et c'est presque devenu cool. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est cette phase-là que Apple cherche à développer, à normaliser le Vision Pro. Ils ont passé la première phase. La phase, ah, c'est bizarre ce truc. Des gens se baladent dans la rue avec des Vision Pro, mais oh là là, mais dans quel avenir on va? Les gens vont se prendre des poteaux. Enfin bon, tout le côté, waouh, c'est super bizarre, jamais je porterai ça. Là, ce qu'on entend beaucoup, c'est les gens, jamais je mettrai un Vision Pro. Et cette première campagne d'Apple autour du Vision Pro, c'est pour passer cette étape-là. Là, maintenant, et c'est le travail le plus dur, ça va être la normalisation et le développement du concept Vision d'Apple. C'est pas nouveau les masques verts. Ça aussi, Apple... Enfin, quand Apple a lancé l'iPhone, les smartphones existaient déjà. Quand Apple a lancé les AirPods, les écouteurs sans fil existaient déjà. Quand Apple lance une Apple TV, les téléviseurs connectés existent déjà. Quand Apple lance une Apple Watch, les montres connectées existaient déjà. Si vous pensez qu'un argument, c'est de dire « mais les casques VR, ça existait », vous n'avez rien compris à Apple. Apple, il n'en a rien à foutre que les casques VR existaient déjà. Ils s'en foutent complètement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est lancer leur spatial computing. C'est Apple. Alors nous, les technophiles, c'est sûr, on est là à dire « non mais Apple, arrêtez de faire croire que vous avez inventé ça. Ça existait déjà. » Mais en même temps, on dit « ah ouais, mais ils font les choses un peu différemment quand même. » Et c'est ce « un peu différemment » qui est la technique Apple. Et tous les gens qui disaient « oui, mais le Quest 3 de Meta, il fait pareil que le Apple Vision », ils n'ont pas tort, on va dire techniquement, mais ils n'ont pas compris comment Apple fonctionne. Apple, il faut vraiment vous ancrer ça dans la tête. Apple, on n'a strictement rien à foutre d'être les premiers sur une technologie. Ce n'est absolument pas dans le cahier des charges d'Apple. La priorité pour Apple, c'est de développer des technologies existantes pour les rendre utiles pour leurs consommateurs et qu'ils pourront vendre beaucoup plus cher que les autres. C'est comme ça que fonctionne Apple. Avec des trucs qui paraissent parfois minimes, et là, dans le cas des Vision Pro, c'est simplement ils ont augmenté la qualité de ce qui se fait. Ils ont travaillé sur des détails pour rendre l'expérience beaucoup plus fluide que tout ce qui existe en casque VR actuel. On parle de l'IA ou on est toujours sur l'ARVR? Écoute, c'est le vendredi. Le vendredi, on creuse des tas de graviers, vous le savez. C'est le but de n'importe quelle marque. Faux, Junta. Regarde Samsung. Samsung, leur priorité, c'est d'être les premiers à sortir une technologie. Pourquoi? Parce que le vrai business de Samsung, c'est pas tant de vendre des smartphones, c'est de vendre des technologies à d'autres fabricants de smartphones. Donc, par exemple, Samsung a tout intérêt à être le premier à sortir une technologie, même s'ils savent pas à quoi ça sert. Et comprenez bien ça sur Samsung. Samsung va parfois sortir des trucs sur leur smartphone sans même avoir réfléchi à quoi ça va vraiment servir. Mais au moins, ils seront les premiers à l'avoir fait, cette techno. C'est pas du tout la même stratégie qu'Apple. Façon de dire que ce que tu expliques là, j'ai du mal à le voir. Pourquoi ça ne vaudrait pas pour l'IA? Alors, mais très, très pertinent, Oleg. Le problème de l'IA... c'est que l'IA est une révolution très profonde. En gros, si Apple prenait 3-4 ans à développer l'IA générative, je vais essayer de te donner un exemple. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Si Apple prenait 3-4 ans pour peaufiner l'IA générative avant de l'implémenter dans leurs produits, les gens auront switché de produit. Pourquoi ? C'est un peu comme si Apple prenait 3-4 ans pour sortir la souris ou l'écran touch. C'est-à-dire que l'IA générative est une révolution extrêmement rapide qui va changer profondément notre manière d'utiliser l'informatique. Mais vraiment, dans notre... c'est pour ça que je parle d'interface de souris ou de touch. Un smartphone qui intégrera bien l'IA générative, on ne l'utilisera pas du tout comme on utilise un smartphone aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire, Oleg ? En tout cas, c'est ce que je pense. Donc, si Apple prend 3-4 ans pour sortir leur version de l'IA générative, il est probable, à mon avis, que beaucoup de gens auront switché. Et l'IA, c'est aujourd'hui. Pour le coup, Apple a peut-être fait une erreur en se disant on a le temps avec l'IA générative, comme on a eu le temps avec les écrans pliants, comme on a eu le temps avec les téléobjectifs. Oui, je sais, Apple a pris le temps pour mettre un téléobjectif, Apple a pris le temps pour des technologies. Là, d'abord, c'est du software, c'est autre chose que du hardware. Et c'est un changement très, très, très profond de l'usage de l'informatique. Mais je peux me tromper, hein. Mais moi, je pense que c'est pour ça que Apple se dit « Ah, on est en train de rater un coche, on ne peut pas se permettre de le rater. » Si on prend l'exemple du capteur d'empreinte, Samsung a introduit le premier sur Galaxy S5, mais on devait glisser le doigt sur le capteur pour déverrouiller, ça ne marchait pas à tous les coups. Apple l'a lancé quelques années après sur l'iPhone 6, mais beaucoup plus travaillé, rapide, design. Exactement, exactement. Voilà, la technique Apple ne s'applique pas là parce que l'IA est une rupture. Exactement ça. Putain, j'aurais dû le mettre dans ma vidéo. Elle est bien ta phrase. Moi, j'explique ça de manière beaucoup plus laborieuse dans ma vidéo. Ah ! Vous êtes meilleur que moi. Vous devriez faire des chaînes YouTube et que je disparaisse dans le néant. comme une vieille Xbox Kinect. Facturez vos phrases. Oleg, bravo le capitalisme. Super, dès le vendredi matin. Le grand public n'est peut-être pas aussi pressé pour cette rupture. Franchement, tu vois, moi, là, maintenant, le réflexe que j'ai d'appeler Copilot tout le temps, puisque je l'ai mis sur mon bouton action de mon iPhone. Chaque fois que je le fais devant les gens, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit « Putain, je me suis installé Copilot sur mon iPhone, ça change tout. » Mais tout. Je n'utilise plus du tout mon iPhone comme avant. Ils font plus du tout de recherche dans leur moteur de recherche. Ils ne formulent même plus leurs demandes. Vous savez, on a appris finalement à formuler nos demandes informatiques en se disant « Ok, alors là, il va falloir que j'ouvre cette app et puis je prends l'info, puis après je vais la copier-coller. » Et voilà, on a appris avec nos smartphones à décomposer une action informatique en un tas de petits process. Et pourtant, Copilot, pour l'instant, est très mal implémenté dans l'iPhone. C'est juste une surcouche. Mais je parle à mon iPhone comme si je parlais à un assistant, quoi, maintenant. C'est un peu lent. Je suis d'accord avec toi, Déclic, c'est un peu lent. Mais comment vous expliquer ça ? Si vous comparez... Alors le problème, c'est que Copilot, par exemple, ne peut pas faire certains trucs que fait Siri chez moi, genre allumer la lumière, parce que Copilot n'est pas profondément implémenté dans iOS. Mais par contre, je ne demande même plus la météo à Siri, quoi. Copilot est 10 000 fois, un milliard de fois plus performant que Siri. Donc, quand tu dis le grand public n'est pas friand pour l'IA, c'est que je pense que le grand public n'a pas encore vraiment testé l'IA générative. Ah oui, c'est sûr que c'est pas vraiment dur de faire mieux que Siri, c'est clair. Je crois que sur le tableau périodique des intelligences, alors des assistants, il y a la case Bixby, Siri, sont très proches. Oui, tu peux l'installer comme une application Copilot, mais Copilot, il est maintenant directement intégré profondément dans Windows. Je vais vous donner un exemple que j'expliquais à un pote et ça lui a... Je lui dis, aujourd'hui, quand tu as un problème informatique, tu m'appelles. C'est ce qu'il fait avec son Windows. Je ne sais pas sur qui il tombe, mais bon, bref. Je lui dis, imagine demain, tu pourras demander à ton Windows... ce qu'il faut faire pour réparer Windows. C'est ça que va t'amener l'IA générative. Tu auras un Jérôme réparateur dans ton Windows lui-même. Pardon, oui, j'ai beaucoup dit le mot qu'il ne fallait pas. S-I-R-I. Alors, déclic. C'est sûr que si vous prenez mes exemples et vous dites, pour la météo, on n'a pas besoin d'une IA, vous avez raison. Attendez ma vidéo. Attendez ma vidéo et on en reparle. Copilote dit, bon, appelle Jérôme, je ne sais pas faire. Tu prends Microsoft Copilot sur l'Apple Store. Alors, sur le paiement des IA, là aussi, j'y réponds dans ma vidéo. Bref. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme article cette semaine ? La PlayStation... Alors, paradoxe, on parlait de la VR tout à l'heure, et Sony arrête les frais avec son casque de réalité virtuelle. Ça montre bien une chose que j'étais en train de dire. C'est pas le casque de réalité virtuelle qui est important. C'est qu'est-ce qu'on en fait. Et la tech, c'est ça. C'est pas la technologie qui est importante. Oui, le PlayStation VR 2 ressemble à un Vision Pro. Et même certains pourraient me dire, technologiquement, sur certains points, il est supérieur, puis il est moins cher, et puis... OK. Mais, a priori, Sony... Ben, ils n'arrivent pas à en vendre. Attention, je n'ai pas dit que Apple avait réussi à en vendre non plus. Mais combien ils en ont vendu, Sony ? Ils en ont vendu 595 500. Et ce chiffre n'a cessé de baisser. Ce qui n'est pas des chiffres de vente énormes. Alors, vous me direz, oui, mais Apple, ils n'en ont vendu que 200 000. Je viens de vous expliquer que Apple, avec cette V1, ce n'est pas la vente de masse qu'ils cherchent. C'est à implémenter l'idée. Copilot, on peut lui demander de faire voler un avion. Alors, je comprends le jeu de mots, mais très sérieusement, imaginons une situation catastrophe. Vous êtes dans un cockpit d'avion. Il n'y a plus de pilote dans l'avion. Bah, peut-être que je demanderai à Copilot ce qu'il faut faire. C'est invendable leur truc. La V1, je suis assez d'accord. Moi, la V1, je vous l'ai souvent dit, n'achetez pas le Vision Pro V1. Il sert à rien pour l'instant. À rien du tout. À part pour des youtubeurs et des développeurs, ce n'est pas un produit utile pour l'instant. N'y a-t-il pas un risque que les réponses des futurs IA soient biaisées par leurs réponses en favorisant des apps, produits et marques partenaires ? C'est une remarque intéressante. Ça va faire partie, je pense, effectivement, des problèmes. De toute façon, c'est déjà le problème aujourd'hui. Comment sont entraînés les modèles de langage? Et les biais, là, tu parles d'un biais marketing, selon quoi un modèle de langage aura tendance à favoriser des produits par rapport à d'autres. Mais le biais aujourd'hui le plus connu, c'est que ces IA, ces modèles de langage ont été développés par des hommes blancs. Donc, ça développe des, ça renforce des biais de la société. Et c'est un problème. Mais si personne ne l'achète, ils vont avoir comment ? Yves, le plus important, je pense, pour Apple, dans le cas du Vision Pro, c'est de faire passer l'idée. Une fois qu'ils auront fait passer l'idée que c'est pas si bizarre de se mettre un truc comme ça sur la gueule, après, ils pourront en vendre. Un avis sur le X100. Ah, c'est le Fuji et les ruptures de stock. Ouais, c'est un peu la technique Fuji pour rendre les appareils photo hype. Moi, je pense quand même un petit peu. C'est bien ça, le X106. C'est pas un appareil photo de Fuji. Il faut que tu me donnes la marque, sinon. Ouais, c'est le Fuji. Le monde de la photo, c'est un monde où la hype compte beaucoup et Fuji a toujours une... ils ont très bien su cultiver une certaine hype. C'est un peu le Leica grand public Fuji pour moi, si je devais résumer un peu leur stratégie. On continue dans les articles, TikTok, Reddit qui est rentré en bourse, a fait son IPO, plus 50% le premier jour, ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer dans les jours qui suivent, hein, l'IPO de Reddit. Marion vous a déjà fait tout l'article là-dessus, vous pourrez voir ça dans les replays. Moi, je vous avais parlé de la nouvelle caméra de Logitech, mais ça, on va pas rentrer dans le détail. Je vous conseillais, si vous êtes Apple fan, justement, de regarder cette vidéo qui a été faite par Brian Tong, qui s'est baladé au QG d'Apple en interviewant des personnes haut placées chez Apple autour de l'iPhone. Et bon, c'est un peu une vidéo d'Apple fanboy, hein. Clairement, mais c'est intéressant. On apprend des choses sur l'histoire de l'iPhone. Donc, je vous invite à aller regarder cette vidéo. On avait parlé effectivement des 3 gigas par semaine. Mon Dieu, qu'elle est bête. Bref, à la chanson d'Indochine. On a fait le débat hier. Allez regarder le replay d'hier. On a parlé effectivement pas mal d'IA hier avec le fait que Mustapha Suleiman prend la tête de Microsoft AI et que c'était l'ancien cofondateur de DeepMind. On en a tiré toute une analyse effectivement sur le marché de l'IA. Est-ce que c'est une bulle spéculative ou pas? Les avis divergent. Et c'est... Oh, il a divergé. C'est intéressant. Google Wallet qui va être compatible avec le format Apple Card, ce qui est intéressant aussi hein, pour les utilisateurs. Ouais, waouh, elle est... Ouais, c'est terrible, cette vanne. Je suis d'accord. Mais c'est vendredi. Le vendredi, tout est permis. Pareil, les YouTubeurs qui doivent signaler quand ils utilisent de l'intelligence artificielle générative dans les vidéos... Je vous ai dit ce que j'en pensais. Allez voir le replay d'hier. Si vous l'avez raté, ça fera des vues. Ah, il perd pas le nord. Hein. On a parlé des injections de l'économie américaine dans Intel et du marché de la puce qui devient absolument stratégique, justement avec l'IA. Le développement, on l'a bien vu avec le succès actuel de Nvidia. le marché des semi-conducteurs autour de l'intelligence artificielle, dans les 10-20 ans à venir, c'est énorme. C'est absolument énorme. Oui, quand on parle en anglais, on dit AI. En français, on dit IA. Et alors, il y a deux articles que je voulais aborder aujourd'hui. Oui, Annie Leibovitz. Ça va plaire à Olek. Si vous ne connaissez pas, c'est une photographe mondialement connue et qui vient de rentrer dans l'Académie française des arts. Et elle s'exprime autour de l'intelligence artificielle, ce qui est intéressant vu que c'est quand même une photographe renommée. Donc ça, ça sera intéressant comme qu'on en parle. Mais d'abord, je voulais parler, parce que vous avez peut-être vu les titres, que les États-Unis, il y a une class action, enfin, il y a une accusation globale aux États-Unis qui accuse Apple de monopole illégal. Ce que je voulais surtout dire par rapport à ça, c'est que j'en ai beaucoup entendu dire, vous savez que récemment, Apple a dû adapter iOS 17 au marché européen. Marché européen qui a fixé des règles antitrust à Apple en disant cette situation de monopole que vous avez notamment sur les applications, ça ne va plus marcher en Europe. Il va falloir que vous ouvriez votre système. Permettre effectivement à d'autres App Store d'être installés sur un iPhone, permettre à d'autres systèmes de paiement d'être utilisés que les paiements Apple. Et Apple s'y est soumis de mauvaise grâce, mais il s'y est soumis en Europe. Et j'ai beaucoup de gens que j'ai vus sur Twitter X dire « Ouais, l'Europe, avec nos règles à la con, on freine l'innovation, Apple a tout à fait le droit de protéger son marché, etc. On va être en retard sur les États-Unis, Apple va nous détester, du coup on n'aura jamais le Vision Pro. » Voilà. Vous vous souvenez quand Jean Massier était venu faire une keynote avec moi, il avait parlé du Bruxelles Effect. Qui, je refais la blague, n'est pas ce qui se passe quand vous mangez des choux de Bruxelles, mais le fait que quand l'Europe prend des décisions, bah, ça inspire le monde. Alors, on ne va pas se jeter des fleurs européennes, genre « Ah, on est les leaders du monde ». Non, on en est très très loin. Mais les normalisations européennes ont tendance à inspirer des décisions dans d'autres pays ou dans d'autres regroupements de pays. USB-C, etc. Voilà. Donc, là, c'est assez intéressant que nos fameuses règles rétrogrades faites par des vieux mecs à Strasbourg ou à Bruxelles qui comprennent rien à l'informatique, ben les États-Unis, eux aussi, commencent à dire à Apple... Ouais, ok, c'est ton précaré, les iPhones, mais t'as quand même des pratiques un peu anticoncurrentielles. Les États-Unis. Voilà. Alors, ça veut... Le RGPD a du mal à passer ailleurs ? Ils en parlent beaucoup hein, aux États-Unis hein, de ce qu'on a fait en Europe. Hein. Ils en parlent beaucoup. En fait, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis ? C'est effectivement le Department of Justice et les 16 procureurs généraux. C'est avant tout l'avarice d'Apple et sa façon de répondre aux pulsions financières. Par ses pratiques, Apple ferait grimper les prix pour les consommateurs et les développeurs en les rendant dépendants de l'iPhone. Les utilisateurs n'auraient pas accès à toutes les fonctionnalités de leurs appareils et les développeurs se verraient imposer des restrictions contractuelles sélectives, c'est-à-dire non égalitaires en fonction de qui ils sont. Le ministère de la Justice a précisé dans un communiqué de presse relayé par The Verge que Apple exerce son pouvoir de monopole pour soutirer davantage d'argent aux consommateurs, aux développeurs, aux créateurs de contenu, aux artistes, aux éditeurs, aux petites entreprises, aux commerçants, entre autres. Et non, ils ne sont pas Apple fanboys, hein, le ministère de la Justice américain. Les explications sont heureusement plus précises que ça. Apple restreindrait les possibilités offertes aux super applications qui rassemblent plusieurs fonctionnalités alors qu'elles pourraient permettre de passer d'un iPhone à un appareil concurrent. Ce qui est mis en cause, c'est aussi le fait que Apple bloque les applications de cloud gaming puisqu'il faut passer par le navigateur pour jouer à Xbox Game Pass Ultimate ou le Nvidia GeForce Now. Ce qui dérange les procureurs et le ministère, c'est aussi la compatibilité pas assez grande entre les messages de l'iPhone et les smartphones Android. Le mot n'est pas lancé, mais on parle bien là de la fonctionnalité, peut-être des fameuses bulles vertes et bleues. On avait déjà parlé de ça. Apple limiterait par ailleurs les fonctionnalités des montres connectées qui ne sont pas Apple Watch avec les iPhones. D'un autre côté, l'entreprise est accusée de faire en sorte qu'il soit plus difficile pour les utilisateurs de l'Apple Watch de passer de l'iPhone à un autre smartphone en raison de problèmes de compatibilité. Enfin, ce qui est mis en cause, c'est le fait que Apple empêcherait les développeurs de créer des équivalents à Apple Pay pour utiliser la fonction Tap to Pay des smartphones de la marque à la pomme. Enfin, la plainte affirme plus généralement que le comportement d'Apple va au-delà de ces exemples, affectant les navigateurs web, la communication vidéo, les abonnements aux actualités, les divertissements, les services automobiles, la publicité, les services de localisation et bien plus encore. On pourrait continuer sur l'article, mais en fait, j'ai lu un article américain ce matin. En fait, ce qui se passe là aux États-Unis, c'est exactement, presque au mot près, les accusations qu'ont eues Microsoft en 1990. Microsoft est tombé sous les lois antitrust en 1990 pour abus de position dominante du marché. Ils avaient complètement verrouillé le système informatique. 97% des ordinateurs grand public utilisaient Windows. Le navigateur était forcé. Enfin, ceux qui ont connu ces grands procès de Microsoft, ça s'est assez mal terminé pour Microsoft. Ils ont dû splitter leur activité en deux. Ça n'a pas tué Microsoft, par contre. Ils se sont adaptés, ils ont payé leurs amendes, et ils sont encore là, Microsoft. Donc, là, l'idée, c'est pas de tuer le business d'Apple, mais c'est quand même une sonnette d'alarme qui dit... Bien sûr que Apple a le droit de protéger son marché. Ça, ce n'est pas ce que dit la justice américaine ni européenne. Ce que dit la justice européenne et américaine, c'est que tu ne peux pas mettre des barrières trop hautes ou tu ne peux pas mettre des barrières autour de ton pré carré. Sinon, tu bloques des processus naturels de concurrence de manière artificielle. En fait, ce que disait cet article de manière assez provocante, c'est que c'est pas d'être un monopole qui est interdit. Techniquement, juridiquement parlant, c'est pas interdit d'être un monopole. Ce qui est interdit, c'est de mettre en place des processus qui conservent ton monopole de manière artificielle. En fait, le principe du libéralisme, on va dire, et de la libre concurrence, c'est que tu ne peux pas entraver la concurrence par des moyens artificiels. Parce que la concurrence, normalement, la concurrence doit fonctionner en étant le meilleur. Apple devrait être le meilleur dans ce qu'il fait. Et vous voyez, un très bon exemple, c'est l'App Store. Beaucoup de gens, je sais que beaucoup le pensent, de toute façon, même s'il y a des App Store alternatifs, on ne les installera pas. Ils seront moins bons que l'App Store d'Apple, qui est hyper bien fait. OK ? Mais c'est ça, la bonne concurrence. Il faut qu'Apple continue à faire le meilleur App Store. Il faut qu'Apple continue à faire le meilleur navigateur. Il faut qu'Apple continue à faire le meilleur truc. Mais sans mettre des barrières pour empêcher les autres d'essayer, eux, de faire mieux qu'Apple. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça la bonne concurrence. Il faut des règles dans la concurrence, et la règle, c'est exactement comme la compétition sportive. T'as pas le droit. Imaginez une course. Hein, une course à pied. Que le meilleur gagne, mais t'as pas le droit de mettre des clous ou d'attacher les lacets du mec d'à côté. Tu dois juste courir plus vite que le mec d'à côté. Mais tu dois pas te doper, tu dois pas l'empêcher de courir plus vite que toi en lui mettant des barrières, en fait. Non, mais les clous, ça aide. Oui, vous faites vos courses à pied comme vous voulez. Hein. Je suis Pierre de Coubertin. Que l'important, c'est de participer. Tu as le droit de créer des catégories pour éviter que tout le monde court dans la même course. Ouais, mais Wendigo, là, tu joues sur les mots. En gros, là, Apple, ce qu'ils ont fait, c'est une catégorie où il n'y a que Apple qui a le droit de courir. Donc, c'est sûr qu'ils vont gagner. Quelque part, allons-y, glissade politique dangereuse. J'aime bien ça, modérateur. Tenez-vous prêt, ceci n'est pas un exercice. Apple fait un peu comme une élection en Russie. Quand tu as éliminé tous tes compétiteurs... C'est un peu normal que tu fasses 97% des voix. Hein, à demander comment il n'a pas fait pour faire 100%. On était à deux doigts de passer un vendredi peinard. Non, non, moi je vous garde entraînement, toujours. Ceci n'est pas un exercice. Non, n'y va pas. N'amène pas la Russie. Oula, la glissade. Aïe, 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 aïe. Non, mais voyez ce que je veux dire. Tu n'as pas le droit de créer une situation où il n'y a que toi qui peux gagner, quoi. Non, pas ça, Jérôme, pas toi. On aura le droit à un Apple Arcade de qualité. Alors ça, c'est une autre question. Apple et les jeux vidéo, c'est complexe. Hein. On y a cru, on y croit, mais il n'y a rien qui vient vraiment. Enfin, ça vient quand même, mais compliqué. Elle est pas mal d'ailleurs, la vidéo de Micode sur le sujet. Je vous conseille d'aller la voir. Un autre. Ah oui, j'aurais pu faire la même chose avec le gatekeeping patriarcal, hein, docteur Rictus. Pas de problème. Alors, t'as raison, Pat Cyrine, Apple n'est pas un monopole. Là où t'as raison, c'est qu'Apple n'est pas dans la situation de Microsoft dans les années 90. Microsoft avait une mainmise sur le marché informatique que n'a pas Apple. Même si avec les récentes augmentations de parts de marché d'Apple, en fait, ce que dit la justice américaine par rapport à ce que tu dis, c'est que Apple n'est certes pas dans une position de monopole absolu sur l'informatique, mais dans une position hautement déséquilibrante. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, je crois qu'ils ont 53% de part de marché sur les smartphones, ou 60%, je ne sais même plus les parts de marché. Bon, dans le monde, c'est beaucoup plus nuancé, mais les États-Unis s'occupent de leur cul, ils s'occupent du marché américain. Le marché américain, quand même, Apple a une grosse, grosse position. Mais Apple va se défendre comme tu es en train de les défendre là. Ils vont dire, messieurs, parce qu'attention, là, on a les accusations, mais Apple va se défendre et il a déjà commencé à se défendre. Apple, il va dire, attendez, on n'est pas Microsoft, nous. Hein ? Vu comme on vend nos iPhones hyper chers, bah, tous les Américains n'ont pas acheté nos iPhones. Donc, vous ne pouvez pas dire que 100% des smartphones, si les gens, ils veulent de l'Android, ça a du mal à passer, mais si les gens veulent, ils ont la liberté, donc on n'a pas bloqué cette concurrence-là. C'est 63% des parts de marché, effectivement Apple. C'est quand même, c'est de la grosse part de marché. Hein. Quand on t'amène la galette des rois à l'épiphanie et que tu dis, les gars, je vais prendre 63% de la galette, tu passes pas inaperçu et ta probabilité d'avoir la fève, elle est quand même énorme et pas très équitable. Voilà. Je vais essayer, prochaine épiphanie. Bon, les gars, je prends 63% de la galette. On avait dit trois parts, Obélix. Oh, est-ce qu'on mettrait pas des fèves dans le kunyamam? Tu viens de me donner une super idée, Grolb. Mais est-ce que la fève ne se dissoudrait pas dans le sucre et le beurre? Il faudrait des fèves en titane. Comment on est passé de Apple à la galette des rois? Tout peut arriver le vendredi dans cette émission, vous le savez. C'est une émission quantique le vendredi. Tout peut arriver. Et ouais, cette histoire de bulle verte et de bulle bleue, ça peut vous sembler très trivial et c'est vrai que nous, en Europe, ça a moins d'importance. Aux États-Unis, ça les inquiète beaucoup parce que effectivement, la bulle bleue est un marqueur social très important, notamment chez les jeunes. Et ils estiment effectivement que c'est une vraie entrave à la liberté de choix. En gros, moi, j'ai lu des articles. Alors oui, on tombe de nos chaises, mais c'est comme ça que fonctionnent les États-Unis. Hein. De toute façon, on va dire que ces 20 dernières années, il y a des fonctionnements aux États-Unis qui me font tomber de ma chaise. Mais il paraîtrait que même dans le monde du travail et du recrutement, la bulle bleue est un facteur. En gros, si t'as pas un iPhone aux États-Unis, ça te positionne dans une catégorie socio-économique. Alors, pour ceux qui ne savent pas, on a des bulles bleues quand on a un iPhone dans iMessage. Et si vous recevez un message vert, c'est quelqu'un qui n'utilise pas un iPhone. Nous, en Europe, on est un peu moins comme ça. Ça dépend. Hein. On a quand même nos marqueurs sociaux aussi. Hein. Mais à la différence, c'est que nous, en France, par exemple, les acheteurs d'iPhone, on va les traiter de pigeons. En fait, en France, on va plus avoir une contre-réaction contre les signes extérieurs de richesse. C'est-à-dire que certains vont aussi dire « Ah ben non, moi, ça se voit que j'ai pas d'iPhone et je m'en vante. » Nous, on a quand même une tradition anti-bourgeoisie profonde dans notre culture. Après, on a quand même bien nos marqueurs sociaux aussi. Hein. J'ai fait une croisière, Internet était bloqué sur le bateau si tu payais pas en extra, sauf le iMessage. Mais ça, c'est normal, alias Lu. C'est pas, là, pour le coup, c'est pas tellement iMessage, mais en fait, iMessage ne passe pas par le système téléphonique, des SMS et tout ça. C'est informatique. Donc oui, moi, ça m'est déjà arrivé, effectivement, les bulles bleues passent, mais WhatsApp et les SMS ne passent pas. Ça va, le capital culturel en France, l'argent, c'est vu comme vulgaire. Oui, c'est à nuancer, mais oui, disons qu'on n'a pas du tout le même rapport à la richesse qu'aux États-Unis. Je l'ai souvent dit dans l'émission, ça vient que nous, on a plus une culture judéo-catho. dans le rapport à la richesse. C'est-à-dire que la richesse est une damnation. Les riches ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Enfin, je sais pas, relisez Nouveau Testament, il est plus dur. C'est quoi déjà la formule ? Il est plus dur pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu que pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Je crois que c'est ça. Ça, c'est profondément dans notre culture. Les États-Unis se sont beaucoup bâtis sur une culture protestante où la richesse est une bénédiction de Dieu. On est béni de Dieu quand on a de la richesse et de l'abondance. Et il y a d'autres explications, mais c'est quand même un début d'explication profond sur la différence culturelle dans notre rapport à la richesse. Oui, Jésus était communiste. Il a chassé les marchands du temple. Jésus, il partage. Non, mais c'est vrai. Enfin, on peut se moquer, là. Mais oui, c'est une différence quand même fondamentale dans les cultures protestantes et les cultures judéo-catho. La culpabilité, le rapport à la culpabilité hein, aussi. Ouais, mais alors, Oleg, je parle pas des textes, etc., mais en fait, quand tu as une vie prospère, protestant, anglican, etc., ça veut dire que tu as une forme de bénédiction divine. Alors que dans la culture judéo-catho, l'abondance, la richesse va te pervertir. Alors là, on est en full gravier, là, on est en train de faire de la théologie, machin. Non, mais Wendigo, je sais que c'est plus... Ce que je dis, c'est que c'est des choses qui viennent d'une époque où les religions étaient profondément implémentées dans nos codes moraux et notre vision du monde. Bien sûr qu'aujourd'hui, les religions n'ont plus du tout cette importance dans dans l'Occident, quoique aux États-Unis, c'est débattable, mais bref. Mais quand quelque chose est profondément ancré dans notre culture, c'est que généralement, ça vient de très loin, hein, quand même. Oui, non, mais si on doit partir en théologie, je sais, Oleg, qu'il y a une contradiction là-dedans, parce que les protestants, si on prend le protestantisme dans son ensemble, c'est une théologie qui est née justement en réaction à la création de richesses de l'Église. C'est bourré de paradoxes. Moi qui suis allé au Vatican il y a 2 semaines, la richesse... Donc, c'est plein de paradoxes. J'explique juste l'ancrage que gagner de l'argent, être prospère aux États-Unis est plus vu comme une bénédiction. Avoir de l'argent, en France, on a quand même plus cette vision que l'argent va te corrompre, va faire de toi une personne mauvaise. On a bien fait d'abandonner le sommaire le vendredi. Ah, mais clair, là, Samuel, là, on est parti très, très loin, les gars. Hein. On parlait d'Apple et du Monopole et on est en train de parler des protestants et des judéo-cathos, quoi. Super. Vraiment, hein, Jérôme, tu devrais te limiter à la tech, hein, parce que t'en dis des conneries. Hein. Et là, il y en a 2-3 qui étaient en train de taper exactement cette phrase dans le chat. Ah, ok. C'est lui-même. Pas la peine de lui dire. Bon, on va peut-être pas poursuivre sur la théologie, mais vous avez raison, il y a des contradictions profondes dans ce que je dis. Mais justement, le judéo-catho était quand même assez fort pour maintenir 99% de la population dans une vision de pauvreté pour bien s'enrichir derrière et se mettre bien. D'un autre côté, Apple est une religion sans certains. Mais c'est peut-être ça qui nous amène dans ce discours théologique, Swan. C'est que moi, je le vois bien, certains, je peux même vous dire qu'en DM, alors, il n'a pas mis le mot traître, mais quelqu'un m'a dit, genre, je suis super déçu, je pensais que tu étais fan d'Apple, et tu dis qu'ils sont en retard sur l'IA, je comprends pas. J'aime bien Apple, mais pas au point de... Enfin, je sais pas, ouais, pour moi, c'est pas une religion, quoi. Je suis un apostolat, voilà. Je suis le protestant d'Apple. Tiens, on va voir... Allez, l'opinion de Copilot. À ton avis, pourquoi c'est mal vu d'être riche en France ?
En France, la perception de la richesse peut être complexe et nuancée. Voici quelques raisons pour lesquelles certaines personnes peuvent considérer que c'est mal vu d'être riche. Héritage historique. La France a une longue histoire de lutte contre les inégalités sociales. Les révolutions et les mouvements sociaux ont souvent remis en question la concentration de richesses entre les mains de quelques-uns. Idéal d'égalité. L'idéal d'égalité est profondément ancré dans la culture française. Lorsque des individus accumulent des richesses considérables, cela peut être perçu comme allant à l'encontre de cet idéal. Fiscalité et impôts. La France a un système de taxation progressif où les plus riches paient des impôts plus élevés. Cependant, il existe des critiques sur l'efficacité de ce système et sur le fait que certains riches échappent à l'impôt. Image des élites. Les riches sont souvent associés aux élites, aux privilèges et à la déconnexion de la réalité quotidienne des citoyens ordinaires. Cette image peut susciter des ressentiments. Responsabilité sociale. Certains estiment que les personnes riches ont une responsabilité sociale envers la société. Lorsqu'ils ne contribuent pas activement au bien-être collectif, cela peut être mal vu. Cependant, il est important de noter que ces opinions ne sont pas universelles et que de nombreuses personnes en France n'ont pas de préjugés négatifs envers les riches. La perception de la richesse varie d'une personne à l'autre, et il existe également des exemples de philanthropie et d'engagement social de la part de personnes fortunées en France.
Ouais, t'es vendu à Bolloré. Mais bon, alors, les réponses de Copilot sont super nuancées, politiquement correctes, etc. Mais c'est intéressant quand même. Et là, en plus, ce qu'il y a d'intéressant avec Copilot, c'est qu'elle me cite toutes ses sources derrière. Donc, je peux aller vérifier aussi. Par contre, elle n'a absolument pas parlé du côté judéo-catho, donc j'ai dit de la merde. Merci Copilot, plus complexe et les religions n'ont rien à voir là-dedans. Je persiste et je signerai, Olek, mais on en reparlera dans d'autres trucs. Si on parlait un petit peu de l'autre sujet, il est quelle heure ? 9h23, on va l'aborder un peu pour terminer. Annie Leibovitz. Est-ce que vous connaissez tous Annie Leibovitz ou pas ? Vous en avez déjà entendu parler ? Péter de rire, c'est qui ? Péter des airs, c'est qui ? Bon, c'est une photographe très, 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 très connue. Et je vois que la majorité ne connaissait pas. Tu fais de la photo, mais tu n'en avais jamais entendu parler. Bon... Elle vient aussi de devenir membre de l'Académie des Arts en France. Et pas rien. Sachant que le premier photographe, je crois que c'est 2008, avant qu'ils reconnaissent dans l'Académie des Arts les photographes, ils ont mis du temps. Hein. Bref, ok, on s'en fout, c'est juste une photographe mondialement connue, très importante dans le monde de la photo, hein. Notamment photo de mode. Je sais pas, aidez-moi les photographes qui la connaissent. Est-ce qu'il y a une photo ultra connue de les... Bah, je vais peut-être chercher. Yep. Comme c'est un nom un peu polonais, je vais faire une petite recherche. Pour essayer de vous trouver peut-être une image d'elle que tout le monde connaît. Bon, il y a beaucoup de portraits d'elle. Alors, je vais mettre Famous Picture. Portrait, elle est beaucoup connue pour ses portraits. Ouais, ça date un peu, mais par exemple, ce portrait de Leonardo DiCaprio avec un cygne a été assez connu à cette époque. Cette photo de Michael Jackson. Qu'est-ce qu'il y a Non, c'est pas elle qui a fait cette photo, hein. Mais bon, voilà, c'est une portraitiste assez connue. Ouais, je n'ai pas une photo flagrante. Enfin, pour moi, cette photo avait beaucoup circulé à une époque, donc je la reconnais. Mais peut-être que pour les plus jeunes, vous connaissez moins Annie Leibovitz. Effectivement. Bon, puis là, il y a des photos qui ne sont pas d'elle. Bref, retenez juste que c'est quelqu'un de très connu dans le monde de la photo. Et c'est intéressant parce qu'elle a réagi par rapport à l'IA générative. L'IA générative, on en a beaucoup maintenant dans Photoshop et dans Lightroom, qui sont des outils qui sont très utilisés par les photographes. Là, d'ailleurs, ça vous montre, hein, ça, c'est la pub d'Adobe sur le génératif. Est-ce que je peux la... Merde, je ne peux pas la repasser. C'est con, ça tombait bien, on avait la pub. Bref, le génératif dans Photoshop ou dans Lightroom va vous permettre de créer des éléments qui n'étaient pas dans la photo d'origine. Donc, qu'est-ce qu'elle en pense, elle, cette photographe extrêmement connue? Bah, elle dit que ça ne lui pose aucun souci, l'IA générative, avec... Chaque technologie, on progresse dans la photo. Elle n'a jamais eu aucun problème à travailler énormément avec Photoshop. Elle a beaucoup utilisé, effectivement, pour ses portraits, la retouche avec Photoshop ou Lightroom. Et elle voit l'IA générative que comme un outil de plus. C'est-à-dire, elle n'est pas du tout sur ce débat qu'on peut avoir quand on ne fait pas de photo, de dire « Ah, mais ce n'est pas une vraie photo si tu l'as retouchée ». Et c'est intéressant ce qu'elle dit, c'est que, et c'est souvent ce que je dis moi, elle dit de toute façon une vraie photo ça n'existe pas. Depuis le début de la photographie, une vraie photo n'existe pas. Alors c'est très débattable, mais c'est un point de vue que je trouve très intéressant parce que je le partage. Donc je suis un peu... d'accord avec Annie Leibovitz. Et ça fait super bien de le dire dans un dîner. Tout à fait d'accord avec vous, Madame Leibovitz. Une vraie photo n'existe pas. Non, pour être... La photo est déjà un choix. Le déclenchement, le cadrage n'est pas un reflet de la réalité. Donc une photo vraie n'existe pas. À deux doigts de dire qu'elle s'est inspirée de la vie. Elle, je pense qu'elle écoute le mug. Je vois pas d'autre explication. Est-ce que c'est pas un peu judéo-chrétien? Ah, ça, sur la représentation de Dieu, on pourrait en parler, hein. Elle a un avis biaisé, raisonnement à lire en entier. Son business marche grâce à sa renommée qu'elle a faite avant l'IA. Mais maintenant, va percer dans la photo, l'art. Quand il... C'est intéressant ton point de vue, Wendigo. Pour le coup, tu as raison aussi. T'as raison aussi à se demander si le mot photographe va pas disparaître. Créateur d'image, est-ce que créateur d'image va prendre le pas sur la notion de photographe? C'est pas à exclure. Est-ce qu'il y en a qui s'appelleront « je suis un vrai photographe » Mais un vrai photographe aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'utilise pas de retouche du tout. Mais à quel partir où est-ce qu'on fixe la limite de ce qui est une photo vraie ou pas, en fait? Ah, carrément, on y va en fond de sixième. Non, mais Oleg, on enfonce des portes ouvertes, là. Let's go. Let's go à fond. Mais t'as pas tort. Elle est dans une certaine facilité pour dire ça. C'est un peu... Moi, ça me fait penser un peu à... ça me reviendra peut-être, mais il y avait un groupe de musique qui avait mis son album gratuitement sur Internet en disant « Vous nous donnez l'argent que vous voulez. » Et ils ont fait un grand succès comme ça. J'arrive plus à me souvenir. Mais c'était un groupe qui était déjà connu. C'était à l'époque... C'était Radiohead, merci. Radiohead avait fait ça, ils avaient mis leur album sur Internet. C'était à l'époque où il y avait tous les problèmes de téléchargement, de piratage, etc. Et ils ont dit, bah, en fait, le piratage, c'est pas un problème. Regardez, nous, on met notre album gratuitement. On dit aux gens, donnez l'argent que vous voulez ou que vous pouvez pour avoir l'album. Et vous verrez, on arrive quand même à faire de l'argent comme ça. Ouais, mais t'es Radiohead, mec. Donc, Wendigo, t'as un peu raison. Annie Leibovitz peut dire, moi, l'IA me fait pas peur. Elle a une notoriété énorme. Mais un nouvel entrant aujourd'hui dans la photo, c'est plus compliqué. Ce sont les petits artisans qui ont peur de l'IA à raison et pas les stars de la profession. C'est pas faux. Après, je vous spoil, je l'ai déjà dit hier, mais il y a une chose que je pense de plus en plus de l'IA générative. Il y a une confusion dans l'IA générative et notamment dans la génération d'images. Restons sur la génération d'images. La génération d'images ne crée pas. Ce n'est pas une intelligence créative. Ce n'est pas un esprit créatif. Le génératif est un esprit de synthèse. Ce qui n'est pas du tout pareil. Même si l'esprit de synthèse est indispensable à la créativité, le génératif ne peut pas franchir l'étape de l'esprit créatif. Et j'écoutais d'ailleurs un TikTok de Fibre Tigre, si vous connaissez Fibre Tigre, qui est game designer, écrivain, etc. Il parlait de comment il utilisait l'intelligence artificielle pour inventer des histoires. Et il disait, en fait, je m'en sers paradoxalement parce que l'IA fait des histoires de merde, plates, enfin, des histoires de synthèse. Elle va faire vraiment l'histoire pas chère, bas de gamme. Et ces itérations, en fait, ça lui donne des idées d'itération autour de ça. Mais on s'en fout du mot intelligence, que c'est une intelligence, pas une intelligence. On pourrait parler pendant 5 heures en buvant du rhum de qu'est-ce que l'intelligence. Donc, partez pas sur ce débat-là. Appelons ça IAG, intelligence artificielle générative. IAG, qu'est-ce que l'IAG? Ce n'est pas un esprit créatif, c'est un esprit de synthèse. Oui, je sais que l'histoire de Radiohead, ce n'était pas exactement le contexte, mais en fait, c'est ce qui m'avait fait réagir à l'époque. C'est facile de faire ce genre de démarche quand tu es connu. Voilà, c'est ça que je voulais dire. D'ici quelques temps, ces histoires sont largement plus créatives. Plus j'utilise l'IA, et je l'utilise beaucoup, plus je m'aperçois de sa force et de ses faiblesses. Et je ne suis pas d'accord avec toi. Il sera extrêmement compliqué pour l'IA de devenir plus créatif. Parce que c'est une partie de l'intelligence qui va être beaucoup plus compliquée que ce qu'elle sait faire. L'IA est un outil extrêmement puissant, mais ce n'est pas un outil magique du tout, du tout, du tout. On vous le vend, et ça, c'est le problème. Le marketing, en ce moment, nous vend l'IA comme une baguette magique. Et je le sais, parce que voilà, Google IA, c'est les trois petites étoiles magiques, le coup de baguette magique. L'IA, c'est la poudre de perlimpinpin, ou le sel du... Comment il s'appelle, là, le cuistot qui fout du sel comme un col de cygne, là. Ah, c'est ça, l'IA. Pff, la petite poudre qui va tout transformer magiquement. C'est pas du tout ça, l'IA. Ça, c'est le marketing de l'IA. Sale baie, ouais, voilà. Sale type, oui. En même temps, très peu d'êtres humains sont créatifs. Ça, c'est un autre problème. Je suis d'accord avec toi aussi. L'IA n'est qu'un outil très puissant pour certaines choses parce que, attention, j'ai dit c'est un esprit de synthèse. Mais l'IA a un meilleur esprit de synthèse que nous. Bien meilleur esprit de synthèse que nous. Au même titre que l'informatique a une puissance de calcul bien supérieure à la nôtre. Et pourtant, on l'a accepté, ça, que les ordinateurs calculent plus vite que nous. On l'a bien accepté au bout d'un moment. Je pense qu'on acceptera que l'IAG a un bien meilleur esprit de synthèse que nous. Mais on est méga, méga, méga loin de la moindre once de créativité dans une IAG. Mais vous dites, c'est pas encore magique. Je pense que ça ne sera jamais magique. C'est quoi la... Non mais voilà, les gars, on vient de faire de la théologie. Vous voulez vraiment qu'on se lance dans un débat? Qu'est-ce que la créativité? Je vais essayer de vous expliquer simplement pourquoi j'ai ces éléments-là. J'utilise l'IA tous les jours et jamais... Une réponse d'IA, il y avait une idée dedans. Par contre, les réponses d'IA m'ont donné des idées. Mais c'est jamais l'IA qui a eu l'idée. Et là où l'IA est un outil puissant, c'est que, en tout cas, moi, la créativité marche comme ça chez moi. Une idée émerge toujours d'un esprit de synthèse, d'une synthèse. C'est-à-dire la convergence de plusieurs idées, de choses que j'ai déjà vues, font émerger une idée nouvelle. Je n'ai jamais vu l'IA me générer une idée nouvelle. Ne jamais dire jamais. Avoue ça, Cyrnoud, que c'est une phrase un peu facile quand on parle d'IA. Je ne pense pas que l'IAG va être développé pour devenir plus créative. Parce que vous voulez des définitions de la créativité. Je me lance. La créativité, c'est le choix. Une IAG sera capable de me proposer 4 images, mais elle ne sera pas capable de choisir l'image qu'elle juge la mieux. Une IA ne sait pas décider. Elle génère une synthèse de tout ce qu'elle a vu, mais elle ne sait même pas ce qu'elle a vu. Elle se base sur des choses qui existent, mais elle ne sait pas créer quelque chose qui n'existe pas. Mais ça va être c'est des choses très intéressantes. Hein. Ça va être des débats très intéressants parce qu'on touche à l'existentialisme, on touche à ce qui fait profondément la psyché humaine. Mais bien sûr, c'est ce que je dis, Novate. Nos idées émanent de notre esprit de synthèse, de notre culture, de ce qu'on a déjà vu. Mais nous, on génère quelque chose de nouveau, une idée. Une IA ne peut faire qu'une synthèse. L'IA ne s'est pas décidée, pas encore. Là encore, vous balancez des phrases. Je vous le dis, moi, c'est ce que je pense. On est méga, méga loin. Je ne dis pas que c'est impossible. Mais là, ça sera une autre étape. C'est ce que certains appellent l'IA générale. Ça sera une IA capable de décider. On est très, très loin d'une IA qui sera capable de décider. En fait, ça me fait penser au reinforcement learning, et notamment qu'il y avait un truc genre comportement inattendu, qui était une synthèse de moments où les chercheurs ont été surpris par l'innovation de certaines IA à résoudre des problèmes et des comportements inattendus et efficaces. Oui, pour l'un, alors moi je ne peux... En fait, il y a un moment, je me base sur mon expérience à moi, de mon usage des IA génératives. Et que ça soit en visuel ou en texte, je les utilise beaucoup en ce moment. Je n'ai pas vu la moindre étincelle de créativité dans les réponses. En Chine, il y a une entreprise qui est dirigée par une IA. Tu n'as pas besoin d'être créatif pour diriger une entreprise. Écoutez, comme quoi, on va se quitter sur ce débat, hein, et vous n'êtes pas d'accord avec moi, et c'est une excellente chose. Je suis ravi de ne pas être d'accord avec vous. Bon, vous avez tort, j'ai raison, mais ça, c'est... Non, je plaisante. Non, en vrai, c'est cool qu'on ne soit absolument pas d'accord, et qu'on continue à réfléchir là-dessus, parce qu'effectivement, c'est quand même les enjeux de demain. L'IA générative peut-elle être créative, sujet du bac, dans 5 ans ? Et évidemment, dans ce genre de discussion, il faut définir qu'est-ce que la création, qu'est-ce que l'intelligence, qu'est-ce que l'esprit de synthèse. Et c'est peut-être là où il y a des limitations d'ailleurs à mettre à l'IA. Je suis pas certain. Autant je suis OK pour un monde avec de l'IA qui génère esprit de synthèse, je suis pas forcément d'accord pour un monde avec des IA qui prennent des décisions. Prendre une décision, c'est super facile. Prendre là une bonne décision, c'est autre chose. Tu viens de résumer en une phrase Harry Potter, de WFA, la condition humaine. Tu viens de résumer la condition humaine. Prendre une décision, c'est facile. Prendre la ou une bonne décision, c'est pas facile. en vrai, tu viens de résumer la condition humaine. On peut tromper une fois 1000 IA, mais pas 1000 IA de... Ouais, prenez un chewing-gum. Oh, on va se... Ok. Copilot. Est-ce qu'une intelligence artificielle générative peut être considérée comme créative ? Elle va me contredire, bien sûr.
Lorsqu'il s'agit d'intelligence artificielle générative, la question de la créativité est complexe. Voici quelques réflexions à ce sujet. Processus itératif. Les modèles d'intelligence artificielle générative, tels que les réseaux de neurones, fonctionnent par itération et ajustement. Ils apprennent à partir de données existantes et génèrent ensuite de nouvelles informations. Bien que ce processus puisse sembler créatif, il est essentiellement basé sur des règles et des modèles préexistants. Combinaison d'éléments, l'IA générative peut combiner des éléments existants de manière inattendue, créant ainsi des sorties nouvelles et originales. Cependant, cela ne garantit pas nécessairement une véritable créativité, car l'IA n'a pas de compréhension intrinsèque du concept de créativité. Manque d'intention.
Abrège, frère.
Un artiste ou un écrivain humain, l'IA générative n'a...
Abrège, frère.
Je m'excuse, frère. Je vais mettre fin à cette conversation.
Ouais, elle abrège mieux que abrège frère. Hein. Elle s'est vexée là. Non, mais ce qu'elle dit au début est hyper intéressant. En fait, intéressez-vous au fonctionnement de l'IA génératif. En gros, c'est de la probabilité. C'est de la proba. C'est uniquement de la probabilité à très haute dose, très rapide, sur des quantités énormes d'informations, mais ça reste de la probabilité. Au même titre que la puissance de calcul informatique reste du calcul. Donc, ayez bien ça en tête. L'IA générative n'est pas magique, c'est de la probabilité, à très haute dose. En quoi le cerveau humain n'est pas des probas ? C'est une très bonne question. Je vous laisse avec ça, vous avez le week-end pour réfléchir. Moi, je m'arrête là, là, j'ai le cerveau en bouillie. Je pense que il y en a deux, trois, là, ils se sont rendormis dans nos débats ou ils ont quitté l'émission. Mais c'est hyper intéressant. Enfin, je sais pas vous, peut-être que vous trouvez ça chiant comme la pluie, mais à ce moment-là, allez voir autre chose sur Twitch. Moi, je trouve ça hyper intéressant qu'on ait ces débats-là. Moi, c'est... Franchement, moi, ça, c'est la tech que j'aime, quoi. Je trouve ça quand même vachement plus intéressant que de compter les mégapixels de la prochaine caméra du Pixel 9, quoi. Je dis pas que c'est pas intéressant, hein, le nombre de mégapixels du Pixel 9. Mais là, ah, c'est vachement intéressant, quoi, non ? Je sais pas. C'est ça qu'on veut. Non, mais en même temps, la tech, en ça, je trouve ça formidable. On peut se passionner pour le nombre de mégapixels, mais on peut se poser des questions existentielles grâce à la tech, quoi. C'est ça qui est cool. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. On va bien évidemment faire un raid. Je vous réinforme qu'on va avoir une grosse interruption. Que s'il y a encore quelqu'un à la modération, on peut remettre parce que j'ai plus les dates en tête. On va s'interrompre, je crois, à partir du 8 mai jusque mi-juin, mi-fin juin. 10 mai, ouais. 10 mai. Voilà, il n'y aura pas de live entre le 10 mai et le 24 juin. Parce que Marion et moi, et Karina d'ailleurs aussi, on va travailler au Japon. Donc, ça ne sera pas simple de faire des streams. Et on va également en profiter pour passer des vacances aussi au Japon, en tout cas Marion et moi. Donc, mi-travail, mi-vacances, on sera parti. Moi, je vais être parti pendant plus d'un mois, ouais, c'est ça. Non, du coup, je pense pas que je prendrai vraiment des vacances cet été. Eh ben oui, ben vous regarderez nos stories, nos shorts, tous les voilà, nos shorts au Japon. On vous fera des petites photos au Japon, puis on va faire des vidéos au Japon. Ça va être cool. Donc c'est cool, c'est cool. N'oubliez pas que nous sommes une chaîne totale. Nous sommes YouTube, nous sommes Twitch, nous sommes Instagram, nous sommes un peu partout. Donc, on ne vous quittera pas vraiment, bien évidemment. Y aura des mugs tout l'été. Alors là, crève, Léo. Bah, si tu les fais, Léo, ouais. Ouais, Léo, si tu te réveilles tout le mois d'août à 6h du matin pour faire des mugs à 8h, il n'y a pas de problème, il y aura des mugs tout l'été. Voilà, c'est Léo qui le dit. Les mugs à partir de 10h. Super. Et la productivité du reste de ton travail, tu veux qu'on en parle, Léon? Si on fait les mugs aussitôt, c'est pour avoir une journée de productivité normale derrière. Excusez-moi, hein, je fais un peu de management là, j'en profite. Petit clip de Abrèche Frère. Et si tu les finis aussi tard? Oh, tue-toi, Oleg. Allez, il m'a mis de mauvaise humeur, Oleg, là, maintenant. Il a raison. Léo parle trop vite, oui, et puis il fait des mugs trop concis. Voilà. Allez, on va faire un petit raid chez Flonflon. Let's go, Flonflon. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Peut-être du Enshrouded ce week-end, mais c'est pas sûr du tout, parce que j'ai encore un week-end très chargé. Mais peut-être un peu de stream de jeux vidéo ce week-end, on verra, par surprise. Mais peut-être pas. Et sinon, on se retrouve mardi pour le mug avec Marion. Je vous fais des gros gros bisous. Et merde, j'ai perdu Flonflon. Il est là, oui, c'est bon. On fait un raid chez Flonflon. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien et allez manger votre salade chèvre, miel, graines de chia sur les terrasses au soleil. Big bisous. Ciao tout le monde.